Débarrasse repliait la lapage des mots croisés dont la grille était remplie en petites lettres soignées tracées d'un crayon appliqué, appuyé. Annette avait hésité, recommencé, baumé encore, ouvert avec Éric le dictionnaire de Bailleul qui avait trouvé place sur le buffet à côté du téléphone et de l'annuaire, reconstituant ainsi dans la pièce de Fridière un pan têtu de la minuscule cuisine lisse de l'autre vie. Fréquemment brandi, le vieux dictionnaire avait perdu sa raideur de gros volume guindé. La mère d'Annette, qui l'avait acheté dans une vraie librairie à Lille en 1982, quand sa fille était entrée en sixième, en soutenait avec constance la reliure exsangue par d'astucieuses interventions qu'elle n'omettrait pas de renouveler pendant son séjour de janvier. Nicole et les oncles, s'ils ne manquèrent pas à la vue des grilles complétées, d'ironiser sur la présence affridière d'intellectuels suffisamment dégagés, grâce au travail des autres, des contingences matérielles pour s'absorber dans d'aussi savantes élucubrations, se gardèrent d'attaquer sur le front délicat des mots croisés. En octobre, en novembre, un rite du soir s'établit avant le coucher d'Éric. La mère et le fils, assis penchés sur la précieuse page extraite avec mille soins du journal au préalable éreinté par Nicole, traquaient les ultimes cases récalcitrantes et n'en démordaient pas, tout empreint d'une ardeur grave qui, les premières fois, ne laissa pas d'étonner Paul, lequel, de l'autre côté de la toile cirée marquetée de fleurettes mauves, faisait mine de s'absorber dans le reste de l'exemplaire mutilé pour la bonne cause. Plus tard, dans le cours de l'hiver, d'une voix d'abord à peine audible, il osa une ou deux suggestions qui comblèrent mère et fils par leur opportunité. Tacitement admis au nombre des cruciverbismes impénitents, Paul se révéla et se découvrit lui-même doté d'une impeccable mémoire des définitions ayant trait au fleuve, au pays, au capital. Il se piqua au jeu et attendit ce moment roniché dans le brouhaha croisé des deux télévisions, celle du haut, chuchotante, et celle du bas, tonitruante, autant qu'éperdue. Annette s'entendait avec Isabelle, du Jaladi, cette femme douce et décidée, vaste et volubile, l'enveloppait dans son orbe, lui tenait chaud, lui avait tenu chaud au plus vif du premier hiver quand sa mère était rentrée à Bailleul, une semaine avant que ne tombent pendant plusieurs jours des couches de neige homériques, telles que, de l'aveu même des oncles, on n'en avait pas vu depuis au moins 30 ans. C'était le baptême de ce pays, de la montagne, de l'hiver, de la vie que les gens se faisaient là. Loin de tout, sous le couvert lourd des bâtiments de pierre grise coiffés de bleu, on avait toujours tenu, on tiendrait encore, surtout maintenant avec le chauffage central, la télévision et le congélateur plein. On pouvait pousser la neige avec son ventre entre novembre et février. On était taillé pour ça. Mieux valait toutefois n'avoir rien connu d'autre, ne rien savoir des douceurs insidieuses des pays plats, ni des émollientes complaisances des terres basses. Annette avait senti derrière le regard gris des oncles et sous leur manière désuète ce paquet de mots qu'ils ne diraient pas. Elle comprenait aussi que Paul ne pouvait pas entrer dans sa peau, voir avec ses yeux vels, neufs, les arbres, les prés, les chemins, et les morceaux de ciel et de terre que découpaient invariablement les trois fenêtres de la pièce où elle se tenait. Jour après jour, seule, hors d'atteinte, pendant les mois de février et de mars de ce premier hiver, rien ne faisait bloc contre Paul, rien ne se dressait devant lui. Le territoire lui était acquis, il avait gagné, s'était niché là, avait fait gîte, et pour elle aussi avait à sa façon préparé le cruchot. Elle ne devait pas attendre de lui plus que ce qui était déjà considérable et donné, elle devait résister, tandis qu'Éric, abasourdi par les monceaux de neige, courait avec Lola, mordait le blanc, le mangeait, et jouait à dessiner sa silhouette jetée en croix, inscrite, taillée dans la couche neuve, et cernait la maison de bonshommes ventrus. Sous l'œil presque amusé de Nicole que ses rigueurs hivernales semblaient amadouer. Plusieurs fois, par ce temps de loup, Isabelle était venue. Elle avait surgi, en tracteur, du Jaladi, enfoui réclus d'Aboli, gaillarde sur le vieil engin que tout le pays connaissait. Elle faisait escale au retour du bourg. Elle s'était annoncée, avait téléphoné, demandé si l'on avait besoin de quelque chose. Et de quoi, sachant à l'évidence que les provisions ne manquaient pas et qu'un bon conducteur s'échappait encore en voiture de Fridière quand le Jaladi, desservi par une route tortueuse et follement pentue, décourageait certains jours les efforts héroïques du téméraire chasse-neige communal. Isabelle arrivait, haute et large, se découpait dans la pièce, ôtait dans 3 secondes comme chausson doré ses bottes de caoutchouc vert, vous embrassait, vous prenait contre elle, vive et preste, toute de chair chaude sous le blasi sévère du froid vaincu qui, autour d'elle, lâchait, se retirait, acculait à la douceur. On buvait le café, le gâteau au chocolat d'Annette fondait en bouche, des riens se disaient. Sur le temps, les enfants, le collège, le quart du ramassage qui passerait partout tant que Gilles serait au volant. On n'avait rien à craindre, c'était une chance inouïe. Isabelle savait aussi comment était la neige dans les bois, lourde, grasse et dure à la fois. Il y aurait des dégâts, de la casse, c'était trop de poids d'un coup, avec le gel prolongé aussitôt après les pires tombées, et des nuits la moins 20, et des journées la moins 10 ou moins 12, sans guère de répit pour les arbres, elle parlait. Elle avait éteint le tracteur en sortant de Bagil, sur le plateau juste avant la descente, pour regarder, avec le soleil, l'étendue des pays noyés, et elle aurait presque eu peur. Elle riait de tant de silence aplati, surtout comme après une catastrophe. Elle riait.